se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h08 sur RMC. Un grand merci d'être là et bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est le week-end des experts, vous le savez. Tout à l'heure, ce sera la forme, la santé avec Christian Riquia entre 8h et 9h avec la fermeture des salles de sport dans pas mal de villes et de régions de France. Comment continuer à faire du sport? Il y a des alternatives. Peut-être les aviez-vous découvertes pendant le confinement. On y reviendra tout à l'heure grâce au net aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. On a des coachs qui sont quasi à la maison et on en recevra un tout à l'heure. Christophe Ruel sera avec nous. Et puis, bien sûr, les conseils santé du docteur Christian et qui a... Mais dans l'immédiat, vous le savez, c'est la maison et c'est avec Christian PC. Rebonjour Christian.
Eh bien, rebonjour mon cher François.
Et oui, c'est vrai que le temps n'est pas terrible. Hein. On a entendu tout à l'heure Jérémy Souliman et ces derniers jours, on a eu des tempêtes un peu dévastatrices.
Oui.
Comment être bien indemnisé en cas de dégâts et notamment de catastrophes naturelles? On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser toutes vos questions, bricolage, maison... à Christian PC, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et puis, bien sûr, si vous avez été victime des éléments ces derniers temps, tempêtes, inondations, etc. Le vent aussi a soufflé.
Il y a vraiment
provoquant des dégâts importants.
C'est très tôt, en saison.
Oui.
On a ça à partir du mois de novembre.
Ouais,
et
exactement.
Là, boum, ça a commencé. Il est tombé des hallebardes ces derniers temps, notamment sur... on a vu évidemment l'épisode Cévenol, mais même sur Paris ces jours-ci, il est tombé à un moment des quantités d'eau
bien sûr.
Quelques minutes. Devant chez moi, il y a des travaux. Il travaille sur le gaz. Et le gaz, là, il était dans l'eau.
Le
gaz était dans l'eau.
Il y avait de l'eau dans le gaz.
Voilà.
Ouais, ça, c'est pas terrible.
Les tranchées étaient remplies d'eau. C'est incroyable.
Oui, c'est fou.
J'ai vu ça.
Justement, vous avez été victime des intempéries. N'hésitez pas à témoigner et puis surtout à poser vos questions. On aura des experts avec nous tout à l'heure. Le 32-16, l'appli RMC et Direct Studio. Comment aussi écarter l'eau de la maison pour éviter des remontées d'humidité?
Eh oui,
on est toujours
dans le même esprit.
Voilà, exactement. En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts maison. Et on attaque tout de suite avec Christophe qui nous attend au 32-16. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour. Bonjour messieurs.
Bienvenue Christophe de Sartrouville.
Oui, je vous remercie de que je puisse passer à la radio.
Vous êtes le bienvenu Christophe, bienvenue sur RMC. Et on vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive?
Voilà, je suis propriétaire d'une maison qui est très 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 vieille, qui est de 1896.
Oui.
Et j'ai racheté ça et il y a une dalle de béton. Et il y a un carrelage dessus, quoi. Et donc, je voudrais faire poser un plancher avec des lambourdes et l'isoler. Il n'y a pas d'isolation sur la dalle.
Oui. Mais pourquoi vous voulez mettre un plancher? Vous voulez casser la dalle, si j'ose dire?
Non, pas du tout, quoi. Je voudrais sur les carreaux, quoi. Je voudrais mettre des lambourdes, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Faire un parquet, quoi.
Oui, à ce moment-là, ce qu'il faut mettre, mais vous allez perdre en hauteur. Vous avez de la hauteur sous plafond, j'espère. C'est une vieille maison.
Oui, tout à fait.
Mais vous allez avoir un problème avec les portes. S'il y a des portes qui ouvrent vers l'intérieur, il faudra ce qu'on appelle les détalonner, c'est-à-dire les couper de l'épaisseur de du revêtement que vous allez poser. Sinon, ça c'est pas un gros problème. Vous allez pouvoir mettre visser même au besoin vos solives sur votre, les visser sur le carrelage. Et puis dessus, vous allez pouvoir poser de façon traditionnelle. C'est une solution. Hein. Sinon, vous pouvez poser directement une sous-couche isolante et puis un parquet de recouvrement. Ça serait le plus simple. Parce que poser des solives, reposer du parquet dessus, vous allez perdre au moins 10 cm. Donc,
actuellement, là, je l'ai fait faire parce que je le ferai faire par un artisan.
Hein. Oui, mais votre idée, c'est quoi? C'est pour ne pas avoir l'effet de sol froid.
Voilà, c'est ça.
Ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser sous le, entre. Alors, ça va dépendre si vous posez du carrelage, si vous posez du parquet, parce que vous savez, vous pouvez faire aussi un carrelage qui ressemble à du parquet. C'est aujourd'hui, c'est bluffant, c'est à s'y tromper, et on est quand même là avec une pièce au rez-de-chaussée. C'est toujours mieux d'avoir un carrelage plutôt qu'un parquet. Enfin, ça, c'est un choix, mais ce que vous pouvez me faire, c'est mettre une trame électrique, c'est-à-dire mettre une sorte de chauffage au sol qui va être intermédiaire entre le vrai chauffage, je dirais, et le système de confort. Et vous mettez donc cette trame qui peut, si vous posiez du carrelage, qui peut même être noyée simplement dans la colle carrelage et qui va neutraliser complètement l'effet de froid et sera pas un véritable chauffage, c'est-à-dire ça aura un peu d'effet de chauffage au sol. Mais ça sera surtout très confortable. Donc c'est une solution simple. C'est-à-dire plutôt que d'aller mettre, si vous voulez, des solives ou des lambourdes, comme vous voulez les appeler, et puis de remettre un vrai parquet dessus, d'abord ça va vous coûter cher. En plus, vous allez devoir mettre donc une isolation entre vos solives.
Et qu'est-ce que vous mettriez, vous, comme isolation entre les solives et le parquet?
Bah, n'importe quel. À ce moment-là, on peut prendre n'importe quel isolant fibreux, hein. Si vous mettez vraiment, si vous avez des solives, vous allez perdre beaucoup d'épaisseur. Vous allez avoir une marche à l'entrée, hein.
Oui, ouais, mais je vais faire rehausser la porte parce que.
Oui, c'est une solution. C'est une solution.
Parce que
oui.
J'ai de la hauteur, j'ai une vitre au-dessus de la porte.
Mais sinon, vous pouvez même poser un parquet de recouvrement avec une bonne couche d'isolant en dessous. Si vous voulez, je vois pas très bien l'intérêt que vous aurez de mettre des solives, de remettre un parquet dessus, de remettre de l'isolant entre, et d'avoir une marche de 15 cm. Je vois pas vraiment l'intérêt, alors je vous ai parlé de carrelage ressemblant à du parquet, ce qui est l'idéal parce que là vous pouvez mettre une trame chauffante dedans, mais sinon vous pouvez poser aussi un parquet de recouvrement du vrai ou du stratifié avec un isolant thermique en dessous, vous pouvez le faire aussi. Je vois pas pourquoi.
Qu'est-ce que vous mettriez comme isolant thermique?
Mais l'isolant thermique, si vous optez pour vos solives, vous pouvez prendre n'importe quel isolant thermique, à savoir de la laine de verre, de la laine de roche, ou un isolant dit biosourcé. Après, la seule chose, c'est qu'il faut qu'ils aient une bonne résistance thermique en fonction de l'épaisseur que vous choisirez. Oui, donc, au départ, un bon lambda, c'est-à-dire que tout produit de lambda autour de 0,0, entre 30 et 40, conviendra. Mais après, suivant la résistance thermique que vous voulez obtenir, il y aura une épaisseur plus ou moins importante. Ça dépend si c'est une véritable isolation thermique que vous voulez ou si c'est une situation de confort.
Ah ben non, ça aurait été vraiment thermique, mais bon, comme j'ai pas de hauteur, donc.
Ah ben voilà, c'est ça le problème. C'est que pour avoir une isolation thermique conséquente, il faudra au moins 10 cm.
Oui,
plus votre revêtement, suivant le produit que vous prenez. Alors vous pouvez aussi abaisser un petit peu l'épaisseur, par exemple en prenant de la mousse de polyuréthane, des choses comme ça qui sont un petit peu plus performants. Mais c'est quand même un gros boulot. Alors que je vous dis, moi il me semble que la solution la plus simple, ce serait ce que je ferais, je mettrais un carrelage imitant le bois qui est, je vous le disais tout à l'heure, bluffant. Oui. Je mettrais en dessous un isolant plus, là c'est une mince couche d'isolant à ce moment-là, plus une trame électrique et vous avez des choses chez Atlantic, chez Deléage, tout ça qui sont très performants. Oui. Et puis comme ça, vous allez perdre quelques centimètres seulement.
D'accord.
Voilà, monsieur.
J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du liège?
Je pense que le liège est extrêmement. Alors, le liège en tant qu'isolant ou en tant que revêtement?
Non, isolant. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas un bon isolant. C'est un isolant moyen. Hein. C'est un isolant moyen. En revanche, c'est un bon isolant phonique. Mais vous vous en foutez, là, si vous n'avez personne en dessous.
C'est un bon isolant phonique, le liège.
Oui, c'est un très bon isolant phonique. Et aussi, c'est un correcteur phonique. C'est-à-dire que, par exemple, dans, maintenant, on est passé à d'autres produits, à d'autres technologies, mais souvent, dans les studios, autrefois, on mettait 10 centimètres de liège, et plus ou moins structuré, et ça faisait un correcteur phonique, là, à ce moment-là, correcteur acoustique.
Mmh. Avec tous les
mais
bouchons.
Mais moi, j'ai eu, alors, il y a
eu une époque. Tous les bouchons de bouteilles que vous avez, vous devez avoir des correcteurs phoniques chez vous, partout.
N'est-ce pas? Mais, à une certaine époque, j'habitais ailleurs sur Paris que je suis actuellement. C'était la grande époque où on utilisait le liège de façon décorative.
Ah oui, c'est vrai. Hein,
et j'avais du liège au sol, dans ma salle de bain.
Tiens.
Ah oui, parce que souvent on dit, ah ouais, est-ce qu'on peut mettre du liège dans une salle de bain? Bah oui, puisque ça bouche les bouteilles. Donc c'est étanche, le liège.
Oui, c'est étanche. Hein? Encore faut-il qu'il soit bien posé et pas abîmé, j'imagine.
Il faut qu'il soit très jointif. Ouais. Mais on peut aussi mettre, il y en avait avec du revêtement vinylique transparent.
Oui, d'accord, qu'il étanchéifiait un peu plus. Ouais. 7h18, merci en tout cas Christophe pour votre appel. Et il est temps de retrouver le conseil béton de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Et je vous rappelle que tout à l'heure, on parlera des indemnisations en cas de dégâts, tempêtes et notamment de catastrophes naturelles. C'est vrai que l'actualité nous a rattrapés. Hein. Ces derniers temps, on a eu des sinistres liés aux intempéries. Vous avez des questions là-dessus? Vous avez été victime de sinistres? N'hésitez pas, appelez-nous. 3216, l'appli aussi, RMC Direct Studio. Si vous nous joignez par Direct Studio sur votre smartphone, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. Comment, Christian, écarter l'eau de la maison pour éviter des remontées d'humidité?
Eh oui, les remontées d'humidité, ce qu'on appelle les remontées capillaires, ça va revenir avec le mauvais temps, effectivement. Et là, avec les pluies qu'on voit aujourd'hui, ça va être de plus en plus catastrophique. Je ne cesse de répéter depuis des années que la solution, c'est d'empêcher l'eau d'atteindre les fondations, justement pour que ça n'humidifie pas la maçonnerie. Alors surtout, on vient d'avoir une période de grande sécheresse. Donc il pleut beaucoup, la terre se gonfle immédiatement d'eau, et puis la maçonnerie est elle-même extrêmement sèche, donc elle boit l'eau comme un buvard et elle remonte dans les étages. Enfin, elle remonte dans les étages, elle remonte surtout au niveau du premier niveau, et elle va vous faire des efflorescences, vous connaissez, j'allais dire tous et toutes ça. Non, mais presque tout le monde a eu ça un jour ou l'autre. Alors, la première des choses, je le disais, c'est bien d'éviter que l'eau n'atteigne le pied des murs et ne puisse s'y infiltrer. Alors, la première des choses, c'est de traiter le pied du mur. On a de plus en plus des maisons qui sont les pieds dans l'herbe. Et ça, c'est une vraie catastrophe. En fait, dans ces cas-là, il faut installer un caniveau pour collecter l'eau qui peut s'écouler autour de la maison. Il faut établir même éventuellement un petit trottoir. Ça n'est pas catastrophique quand même. Et puis alors surtout dans le midi où vous avez de plus en plus la mode des maisons sans gouttière. Alors l'eau, elle dégouline de la toiture et hop, elle rentre directement et elle humidifie donc les fondations. Alors on peut faire aussi, on faisait ça encore il n'y a pas si longtemps, mais il y en a encore qui le font, c'est un enduit ciment, on va dire, c'est-à-dire mortier hydrofuge, sur un mètre au pied du mur. Ça, c'est aussi une bonne solution. Alors, depuis les années 70, les maisons ont ce qu'on appelle une bande d'arase, c'est-à-dire une bande d'étanchéité dans l'épaisseur du mur au niveau de la terre. Donc, normalement, là, il ne devrait pas y avoir de remontée capillaire si ça a été bien fait. Mais si l'eau stagne autour de la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il va falloir drainer. Alors, il faut drainer. Comment on draine? Eh bien, on fait des tranchées. On met une couche de sable au fond ou de gravier. Et puis, on va donc mettre un tuyau, un tube perforé, aujourd'hui est en plastique, autrefois était en terre cuite. Et puis, là, on va le diriger vers ce qu'on appelle un puits perdu, c'est-à-dire un puisard. En gros, un trou qu'on a creusé, qu'on a rempli de caillasse. Si vous n'avez pas beaucoup de terrain, on peut le faire autour directement de la maison. Attention, ça doit être fait par un spécialiste, parce qu'il ne faut pas se retrouver à faire l'apprenti sorcier, à drainer autour de son terrain et au lieu d'en écarter l'eau, de l'amener, parce que c'est assez délicat. Alors, sinon, eh bien, il faut aussi. Alors, on pense que les fondations doivent être forcément étanchéifiées. Ben non, c'est pas obligatoire, d'autant qu'il y a la bande d'arase, mais on peut le faire, c'est-à-dire que on peut déchausser casser à ce moment-là les fondations, c'est-à-dire enlever la terre, sans descendre en dessous des fondations, évidemment, parce que des fois, les maisons n'ont pas des fondations très profondes. Et puis, on va appliquer sur le mur extérieur, sur la face extérieure du mur et donc des fondations, on va appliquer là, alors classiquement, un enduit bitumineux, mais il existe aujourd'hui des systèmes avec, on va dire, avec des nattes spéciales, avec des films spéciaux, on va refaire une véritable étanchéité beaucoup plus performante. Alors ça, ça demande quand même aussi ça, l'histoire de l'enduit, enfin du produit bitumineux, on peut très facilement le mettre soi-même. Les étanchéités, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis sinon, bah après, si on peut pas accéder aux fondations, il y a les injections de résine. J'en parlerai une prochaine fois.
Christian, il est 7h22. On va revenir dans un instant et on va attaquer notre dossier. Comment être bien indemnisé en cas de dégâts, tempêtes et notamment de catastrophes naturelles, avec notre invité qui sera là, Fabrice Socio. Et on aura d'ores et déjà Olivier qui aimerait témoigner, car suite à de violentes rafales de vent, son portail s'est retrouvé sur le trottoir. Vous vous rendez compte ? Le portail s'est carrément arraché et atterri sur le trottoir. Il a contacté son assureur, évidemment. Ça se passe pas comme prévu. On en parle dans un instant. Et puis, bien sûr, toutes vos questions, témoignages, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h30, Christian Pessé, le monument.
Le monument, on parlait.
C'est ça. Ouais. Enfin, vous êtes
de
pour un monument. Pour un monument, vous êtes quand même assez encore agile.
Oui, oui, trouve. Ça va, je m'en sors, notamment avec notre producteur.
Alors, vous êtes un peu agile.
Je suis agile.
Vous êtes agile, c'est cela. En revanche, vous commencez à être un monument ancien.
Mais je ne suis pas un chef-d'œuvre en péril.
Ah non, ça, il n'y a pas péril dans la demeure.
Non.
Enfin, cela dit, on peut avoir péril dans la demeure en ces temps d'orage et de tempête.
Oui, je trouve que la transition que vous faites est absolument
transition.
Excellente.
Ah ouais.
Oui, c'est incroyable. On a à peine fini l'été. On est les premiers jours de l'automne et ça pète de partout. Il y a de l'eau en veux-tu, en voilà. Donc on a vu l'épisode Cévenol et je pense que ça va continuer. On sent qu'on est entré dans une saison à orage ou à tempête. Donc ça m'a donné l'idée de se demander comment être bien indemnisé en cas de dégâts de tempête et notamment de catastrophes naturelles. On va voir la différence. Alors on est aujourd'hui avec Fabien Socio. Bonjour.
Bonjour Christian, bonjour.
Êtes expert assurance pour le comparateur de meilleurtaux.com, hein, qui est Meilleur Assurance, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. Et donc j'imagine que vous voyez des cas passer en quantité en tant qu'expert de la question. Donc je rappelle, vous ne défendez pas une assurance, vous travaillez avec presque toutes les assurances, j'imagine, du marché.
Nous sommes neutres, impartiales.
Voilà. Alors, ça a complètement changé la manière dont on choisit nos assurances, hein, les comparateurs d'assurance. Oui. C'est ça qui est top.
C'est tout à fait spectaculaire, hein. C'est vrai que ça a complètement changé. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à partir de quand des dégâts qui sont liés à des intempéries peuvent-ils être pris en charge par l'assurance ? Et on parle pas forcément, évidemment, là de ce que sont les gros dégâts qu'on a vus, donc qui peuvent être pris en charge par catastrophe naturelle, quoi, on va dire. À partir de quand on peut dire c'est un dégât tempête.
Alors à partir déjà du moment où on a des garanties qui sont correspondantes sur le contrat. S'assurer que sur son contrat d'assurance, on est bien couvert pour ces garanties-là et surtout quels biens sont couverts dans ces cas-là. Est-ce que mon auto va être couverte pour les garanties tempêtes? Est-ce que mon habitation va être couverte pour les garanties tempêtes? Donc ça, il faut regarder son contrat, il faut contacter son assureur, lui poser la question.
Alors vous êtes en train de me dire que si par exemple il y a un coup de vent incroyable, mon garage s'écroule et il tombe sur ma voiture elle n'est pas forcément couverte?
Pas nécessairement, effectivement, ça va dépendre des dommages, en fait, des contrats. En auto, vous avez la garantie responsabilité civile qui est obligatoire, qui est ce qu'on appelle le tiers. D'accord.
Oui. Mais les
minimum qui est obligatoire dès qu'on a une auto. Par contre, au-delà, ce n'est pas obligatoire. Et donc, si vous n'avez pas de garantie supérieure, sous-entendu garantie de tout risque, donc rattaché au dommage vol, incendie, etc., vous ne serez pas indemnisé pour votre véhicule.
Mais vous êtes en train de me dire que c'est pas l'assurance qui couvre le toit, mais c'est l'assurance de la voiture elle-même qui, quand on est tout risque, va prendre en charge le fait que le toit soit tombé dessus.
Ça va dépendre des situations, effectivement. Si c'est un problème lié à une habitation qui s'effondre, si c'est un dommage lié à un tiers qui va tomber sur l'auto ou autre, alors dans ce cas-là, c'est effectivement l'assurance, on va dire, du sinistre originel qui va prendre le pas.
Christian et Fabien, oui. On accueille Olivier qui est avec nous au 32-16. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bon.
Alors Olivier, votre portail s'envole, c'est ça?
Ah ben oui, en plus ça tombe bien que M. Socio soit là. Et puis je voulais juste une parenthèse pour M. PC dans les vieux pots, la bonne soupe. Donc là, je n'altère pas les capacités.
il est encore meilleur d'ailleurs, voilà, c'est ça. Mais... Ah.
Je me réchauffe tous les samedis matins, oui.
C'est ça.
Je vous écoute.
C'est gentil.
Bon, j'essaie d'être bref.
Allez, racontez-nous. Place,
aux autres auditeurs. Voilà, hier matin, 7h, Pyrénées-Atlantiques, secteur Bayonne, gros coup de vent. Et mon portail qui fait 3 mètres de large sur 2 mètres de haut, plein. C'est une erreur. Je ne referai plus. Et allé voir sur la route s'il n'y avait pas mieux à faire. Bon, alors, d'habitude, je recule le 4x4 contre le portail. Mais avant-hier soir, je ne l'ai pas fait. Et bien, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai téléphoné à l'assurance. Est-ce que je peux la citer?
Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Oui.
D'accord. Alors, j'ai téléphoné à la Massif, avec qui je suis depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait une paire d'années, qui est très bien. Et concernant mon abattement, ma franchise, elle m'a expliqué un truc étonnant. Alors, elle m'a expliqué que si l'expert qui va passer la semaine prochaine déclarait que le dégât était lié aux conditions climatiques, le terme, je ne le connais pas exactement, M. Socio le connaît beaucoup mieux que moi, j'aurais un abattement d'État, parce que ça passait sur des abattements d'État, de 320 €. Et si, alors, tenez-vous bien, si c'était juste un coup de vent, un incident, on va dire, banal, c'est-à-dire lié, qui reviendrait dans le secteur de l'assureur, je n'aurais un abattement que de 100 €. Ça veut dire que plus les conditions... Enfin, moi, je le déduis comme ça, hein. Plus les conditions climatiques sont avérées et fortes, plus il y a des risques que ça passe dans le secteur État, et plus la franchise est élevée. C'est quand même...
Attendez, secteur État, je ne comprends pas, là. Monsieur Socio va répondre.
Je pense que notre auditeur parle, effectivement, de la catastrophe naturelle.
Je ne connais pas le terme, excusez-moi. Hein.
Oui, mais il faudrait que ça soit classé en catastrophe naturelle.
Absolument.
Votre assureur, il ne peut pas le savoir aujourd'hui.
Oui, mais non. Ce que m'a expliqué mon correspondant à la Massif, c'est que si c'est classé en catastrophe naturelle, ça passe en franchise d'État. Et la franchise d'État, elle est de 320 €. Si l'expert classe en, entre guillemets,
en tempête, quoi.
Ouais, en tempête, en ce que vous voulez, ça passe en franchise assureur. Et la franchise assureur de la Massif,
est moins importante.
Tout le monde dirait, ouais. Ben, puisque le dégât est avéré en moindre chose, c'est plus cher. Eh bien non.
Alors, monsieur Socio.
Alors, en fait, c'est très simple et vous avez raison. Alors, c'est pas 320 €, c'est 380 €, effectivement, la franchise légale. 380 € dans la franchise légale pour les catastrophes naturelles. Et vous avez raison. Alors, pour la partie franchise liée à l'assurance, ça va dépendre, effectivement, c'est au cas par cas, selon les assureurs. Il faut regarder son contrat pour connaître les montants des franchises. Mais dans le cas de la catastrophe naturelle, c'est une franchise de 380 €. Pourquoi? Tout simplement parce que la catastrophe naturelle va faire appel à un fonds qui est commun, si vous voulez, à tous les assureurs.
C'est une sorte de fonds de solidarité, on va
dire. C'est exactement ça. C'est un fonds de solidarité d'aide aux victimes de calamités. Et donc, l'État le finance de deux manières. La première, en prélevant un montant sur tous les contrats d'assurance, d'accord? Et la deuxième manière de le financer, c'est via la franchise qui est appliquée dans le cadre de la catastrophe naturelle, donc de 380 € pour le cadre des particuliers et 10% des montants pour les professionnels.
Ceci étant, là, c'est parce qu'on est dans le cas d'un produit, le portail, qui ne coûte pas des fortunes, mais 380 € si toute sa toiture s'est envolée, c'est rien du tout, quoi.
Exactement, enfin, c'est ça.
Même prendre ça en compte.
C'est que quand on passe en système catastrophe naturelle, c'est que logiquement, les dégâts sont quand même importants et surtout, ils sont nombreux, on a beaucoup de sinistrés. Et donc, le but, c'est de pouvoir financer cette aide qui est commune à tous les sinistrés.
D'accord. Donc, de toute façon, on sera toujours couvert s'il y a une catastrophe naturelle. parce qu'il y a une obligation d'État, on va dire. En revanche, si c'est simplement une tempête, là, il faut avoir la clause tempête dans son contrat.
Alors, petite précision, on sera toujours couvert à partir du moment où on a une assurance habitation. L'assurance habitation n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, tous les contrats, quasiment, ont une garantie socle, incendie ou vol, sur laquelle on va pouvoir effectivement déclencher la catastrophe naturelle, d'accord ? Mais il faut avoir un contrat d'assurance à la base.
Alors, je savais pas qu'on n'est pas obligé d'avoir une assurance habitation.
Et vous n'êtes pas dans l'obligation.
Non, c'est pas comme l'automobile, en fait.
Exactement. Les locataires vont être obligés.
Oui, les locataires, si tu es locataire.
Mais si je suis propriétaire, je suis pas obligé d'assurer ma maison.
Tout à fait.
Ah ouais,
tout à fait.
Mais enfin, d'accord, il y a quand même la RC qui est obligatoire. Non, la RC n'est pas obligatoire.
La RC est obligatoire uniquement pour les locataires, parce qu'effectivement, on peut causer des dommages à son propriétaire, d'accord. Mais dans le cas d'une résidence,
donc c'est complètement essentiel de l'aide, parce que
c'est essentiel.
Les dégâts pour soi-même, mais aussi les dégâts pour les tiers.
Exactement. C'est essentiel. Vous l'avez dit.
Si j'ai une ardoise qui s'envole et qui va trancher la gorge de mon voisin,
il faut être garanti.
Il vaut mieux.
Il y a beaucoup de gens qui n'assurent pas leur maison, leur résidence principale.
Non. Il y en a très peu, c'est vraiment infime.
Alors, la fameuse question qui se pose, c'est comment je justifie d'abord, qu'est-ce que je fais si ma maison est complètement noyée, si mon toit s'est envolé, et si tous mes papiers sont fichus, mouillés, à supposer que j'ai gardé les factures, d'ailleurs, de travaux qui ont été faits il y a 10 ans, qu'est-ce que je fais?
Alors, c'est très simple. La première des choses, c'est déjà de se mettre à l'abri. On l'a vu, il y a des personnes qui veulent rester, qui veulent protéger leurs biens. C'est très important de se mettre à l'abri, c'est vraiment la première des choses à faire. Une fois qu'on a fait ça, il faut contacter son assureur pour lui déclarer le sinistre.
C'est quoi, c'est 5 jours, c'est ça?
Alors, c'est 5 jours dans le cadre classique et c'est porté à 10 jours pour le cadre catastrophe naturelle.
D'accord. Et une fois, le délai court à partir du moment où on a constaté les dégâts. Hein.
Oui.
Si on n'est pas chez soi, les 5 jours ne courent pas.
Exactement. Ou alors, il faut que ça soit dans les 10 jours après la déclaration de la catastrophe naturelle par arrêté ministériel. Une fois qu'on a fait ça, donc on contacte effectivement son assureur et puis on va faire tout ce qu'il faut pour empêcher les dégâts d'aller plus loin, de faire plus de dégâts encore, d'accord. Ça c'est très important. Alors il faut pas le faire soi-même, c'est-à-dire que si on a par exemple, on a des fenêtres qui ont été cassées, il faut venir boucher la fenêtre, alors soit la bâcher, soit remplacer le verre rapinant, un panneau, etc. pour éviter que les pluies puissent rentrer dans les jours qui suivent. Pour éviter
un trou dans la toiture, je vais pas aller mettre moi-même une bâche.
On est bien d'accord. Donc sur certains cas, il va falloir faire appel à des spécialistes. Donc il faut contacter son assureur pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut intervenir tout seul? Auquel cas, il faudra prendre bien entendu des photos du sinistre avant réparation pour que l'expert puisse quand même constater qu'il y a bien une action de notre part, soit effectivement voir pour qu'il y ait rapidement un artisan qui puisse venir.
Alors moi je conseille d'écrire ou maintenant d'envoyer un mail à la fois à son assureur immédiatement et puis aussi aux entreprises qu'on a commanditées, parce que sinon on pourra vous dire que vous n'avez pas fait le nécessaire.
Alors
on est bien d'accord.
Ça c'est la deuxième étape, c'est effectivement anticiper. Donc il faut pas hésiter à contacter les artisans, les entreprises qui peuvent intervenir pour justement aller le plus vite possible. Comme ça, dès qu'on a le go de l'assureur, dès que l'assureur nous dit OK, vous pouvez y aller, bah finalement on a déjà le montant qui sera nécessaire pour la réparation. On a peut-être déjà le rendez-vous qui est fixé, etc. Il ne faut pas hésiter à anticiper ça.
Est-ce que si j'ai des dégâts successifs, est-ce que l'assurance peut refuser de continuer à m'assurer et est-ce qu'elle peut augmenter ma prime?
Alors, il y a deux éléments dans votre question. Le premier, c'est si c'est des catastrophes naturelles qui se répètent dans un délai de 5 ans, il peut avoir déjà une augmentation de la franchise légale. D'accord? C'est-à-dire que la commune est frappée par des catastrophes naturelles régulièrement. Au bout du troisième incident, on aura une franchise qui va être multipliée par 2, au bout du quatrième par 3, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Sur la partie hors catastrophe naturelle, oui, si vous avez des sinistres réguliers, l'assureur peut vous considérer comme un mauvais risque et donc mettre fin à votre contrat.
D'accord.
Fabien Sociaux, merci beaucoup.
Pour avoir, c'est quoi, c'est meilleurtaux.com qu'il faut aller voir pour...
Absolument, vous pouvez aller sur meilleurtaux.com, vous retrouverez toutes les informations et vous pourrez trouver également tous les assureurs qui proposent des contrats d'assurance habitation.
Ah bien. Et aussi auto, parce que j'imagine que vous faites autre chose.
Et aussi auto, et aussi pour les animaux, et aussi pour la mutuelle santé, dont on parlera sans doute en décembre avec des nouveautés. Donc oui.
Ouais. Eh bien, on vous rappellera.
Ça bouge dans le monde de l'assurance aujourd'hui.
Constamment.
Intéressant. 7h42, merci beaucoup.
Merci à vous.
On revient dans un instant, Christian, et on passe à autre chose avec Johan, qui sera avec nous, qui habite dans le Var, qui est propriétaire depuis 6 ans d'une villa qui est à 200 mètres d'une nationale. et il n'entendait pas la circulation jusqu'à ce qu'une maison soit construite entre lui et la nationale. Et depuis, ben, il entend du bruit. Voilà. Alors, est-ce que cette maison est tentée? Je ne sais pas. Il va falloir que vous enquêtiez, Christian. C'est dans un instant.
On va chasser les fantômes.
Oui. PC, le Ghostbuster, mesdames, messieurs. À tout de suite. Et puis, le 32-16 pour nous joindre. On revient dans un instant.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Nous voilà de retour. C'est le week-end des experts. C'est la maison. Christian PC à mes côtés. Jusqu'à 8h. Et puis, entre 8h et 9h, c'est le docteur Christian Ricca qui nous rejoindra. Christian, on accueille tout de suite Johan. Bonjour Johan.
Bonjour Johan.
Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous recevoir.
Bonjour Johan du Var, hein, c'est ça?
C'est ça, du Var, oui.
Et infirmier libéral, donc j'imagine fidèle auditeur de RMC le samedi, oui, dimanche matin.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous arrive? On vous écoute, Johan.
Alors, j'ai acheté une villa il y a 6 ans maintenant.
Oui.
Qui se trouve à 100 mètres d'une route départementale.
200 mètres d'une route départementale.
À 100 mètres.
100 mètres.
Voilà. C'est pas loin.
Donc, quand on a acheté depuis les 5 dernières années, aucune mise en sonore ou presque. On entendait vraiment une moto de temps en temps qui allait un peu vite,
oui,
mais vraiment insignifiant. Et là, depuis quelques mois, une maison s'est construite entre moi et la route départementale. Et
oui, j'ai vu, vous nous avez envoyé une photo aérienne, c'est
voilà,
bien.
C'est ça. Et depuis, c'est simplement l'enfer. On a un bruit constant, comme un souffle. De la route, et qui est constant. Jour et nuit, on a un souffle routier, on entend les poids lourds comme s'ils étaient à 30 mètres de la maison, et voilà, c'est incessant, et rien n'y fait. Malgré toute la végétation que j'ai, qui me cache un peu, et ben rien à faire, ça s'amplifie de jour en jour.
Oui.
Donc, au départ, on s'était dit, on pensait que la maison allait couper du bruit.
Et oui, c'est la logique. On se dit que voilà, il y a un obstacle entre vous et la maison, donc ça va réduire le bruit.
On s'est dit qu'il y avait peut-être une autre raison à ça, peut-être qu'il y avait eu des arbres qui étaient tombés, qui coupaient le bruit de la route. Au final, après recherche, ça n'a pas changé. C'est juste la maison qui s'est mise, et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est notamment le bruit du train qu'on entendait, mais alors pas du tout, qui est vraiment très loin, il doit être à 500 mètres le train. Voilà, on entend très fort. Comme un écho qui arrive jusqu'à ma maison.
Et alors, quelle est votre question?
Alors, je voulais savoir si j'avais un recours, notamment auprès de la mairie, pour des aménagements de murs anti-bruit, de talus anti-bruit, par rapport à ce permis de construire qui a été donné et qui m'occasionne des nuisances.
Alors, ça, c'est. De toute façon, la maison elle-même n'est pas responsable, entre guillemets, enfin le propriétaire de la maison qui a engrangé n'est pas responsable. S'il a respecté l'implantation et les contraintes du permis de construire, donc il n'est contraint à rien d'autre, c'est donc une conséquence très indirecte.
C'était difficile d'envisager ça avant la construction de la maison.
Absolument impossible. De ce que je vois de la photo aérienne que vous m'avez envoyée, il y a typiquement un problème angulaire du son, c'est-à-dire que le son vient de la route, frappe le pignon de la maison donc qui a été construite et revient vers vous. Donc les seules solutions, ne rêvez pas, la ville ne va pas vous construire un talus anti-bruit parce que vous avez une nuisance du fait qu'elle a autorisé le permis de construire. Vous pouvez aller devant un tribunal toujours, mais ça m'étonnerait que vous ayez gain de cause. En revanche, ce que vous pourriez faire, c'est négocier peut-être. Alors là, il faut voir avec un acousticien. C'est négocier. Pourquoi pas un revêtement amortissant sur le pignon de la maison qui vient d'être construite, par exemple, en disant, écoutez, on fait part à deux. Est-ce que ça peut être une bonne solution? Vous pouvez toujours dire parce que sinon je vais aller devant les tribunaux, etc. Vous pouvez avoir un voisin qui soit bienveillant et qui dise bon, allez, on va voir si ça coûte pas trop cher, etc. Mais à la ville, en revanche, moi, ce que je lui demanderais peut-être, et ça aurait peut-être plus de chances de passer, c'est de mettre un ralentisseur à l'endroit où les voitures accélèrent, où les motos accélèrent. Et là, avec un ralentisseur...
Pas pour le train, le ralentisseur, ça va être compliqué.
Le train, ça va pas être possible, mais ça... Vous savez, le train... Attendez, moi, j'habite donc en Normandie, à Caen. Hein. J'ai une voie ferrée qui doit être à 4 km à peu près de chez moi. Et suivant le vent... suivant l'orientation du vent, j'entends le train. C'est le Paris-Cherbourg, hein. C'est incroyable. Et en plus, c'est plutôt dans un vallon. Le train passe plutôt dans un vallon, mmh. Plutôt au-dessus. Eh ben, j'entends le train.
Et je vous l'entendez bien?
Bien, oui, bien sûr. Bon, oui, on entend vraiment d'un seul coup bien le train. Et c'est en option sud-ouest, et c'est mon baromètre. C'est-à-dire que quand j'entends le train, je sais qu'il va pleuvoir. C'est dingue, hein.
C'est fou, ça.
Et c'est tout à fait. Alors votre cas, c'est celui-là. Moi, sinon, bah après, je dirais, j'imagine que c'est quand vous avez les fenêtres ouvertes, c'est pas les fenêtres fermées.
Voilà, c'est à l'extérieur, fenêtres fermées, on n'entend rien, hein, pour être honnête. Mais voilà, dès le départ que les murs se sont montés, notamment ouais. Sur l'étage de la maison, on a commencé à vraiment entendre une différence.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est imaginez une boule de billard. Hein, boule de billard à part, elle arrive sur le mur et revient vers vous. Et ça, c'est
étonnant d'avoir une maison qui justement devrait masquer ce bruit-là. Oui, bah, l'amplifie.
Non, parce qu'en plus c'est un mur pignon, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Donc c'est comme un mur de plot basque. Ça arrive là. Et hop, ça part, ou du squash. Ça fait plus moderne. Hein.
Christian Pessé, le sportif, mesdames, n'est-ce messieurs. Pas, tout de suite, voilà. on a des explications impressionnantes.
Pas beaucoup d'autres solutions.
Merci, Johan. 7h52, pour terminer ce week-end des experts maison, Christian, votre coup de cœur.
Alors, mon coup de cœur qui est très mitigé, c'est la publication de l'arrêté qui oblige à installer dans les constructions neuves une douche sans ressaut, autrement dit une douche à l'italienne, avec un gros bémol quand même. Alors, le 11 septembre, l'arrêté a été publié. Il porte sur la nécessité d'installer désormais des douches sans ressaut, donc des douches à l'italienne, pour réduire les risques de chute dans les douches. Et a priori, je dis bravo. La loi de 2015 déjà prévoyait l'obligation de construire des salles de bain modulables et réversibles. Ça ne voulait pas dire grand-chose, mais là au moins c'est précisé. Mais l'arrêté va plus loin. Il précise que les logements neufs doivent être équipés d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut. Je redis bravo, mais aïe. Non, on peut aussi installer une baignoire. Alors attention, on peut installer une baignoire qui n'est susceptible de remplacer la douche, c'est-à-dire une baignoire avec un siphon de sol. Donc à quoi ça sert de faire un arrêté pour dire qu'il faut mettre des douches si on peut mettre aussi des baignoires? On peut quand même s'interroger. Mais le plus surprenant, c'est que tout ça ne concerne que, je cite, que les logements au rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur. Là, on se dit, alors, si je monte à pied, si on a un petit immeuble neuf, à pied, il n'y a plus cette nécessité. Il y a un technocrate, là, qui a disjoncté, hein. Ça ne concerne pour les maisons individuelles, parce qu'on s'est dit, alors, c'est que le collectif. Oui. Mais non, pour les maisons individuelles, ça marche aussi, mais pas pour les maisons qui sont construites pour l'usage du propriétaire. Traduisez, je fais construire une maison demain pour moi-même, j'ai pas cette obligation.
En revanche, je loue.
Celui qui construit a l'obligation d'avoir mis cette douche. Alors, ça a entraîné un tollé dans la profession. Tout le monde s'est dit, oh là là, mon Dieu, ça va compliquer. En fin de compte, c'est une tempête dans un verre d'eau. Finalement, c'est beaucoup de bruit pour rien. Les promoteurs, les constructions de maisons individuelles peuvent dormir tranquilles. Et les fabricants de prothèses de la hanche ont encore de beaux jours devant eux.
Qu'est-ce que c'est beau, Christian. Voilà, belle conclusion de Christian Pessé. Christian, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais avec plaisir. On aura peut-être une ministre la semaine prochaine.
Ah, peut-être.
Parce que des décisions importantes, des déclarations
concernant
importantes
les aides, sur la rénovation.
Concernant les aides, normalement, Mme Wargon devrait être là, mais c'est de bonheur, quoi.
Christian, est-ce que vous avez déjà testé la cryothérapie? Rentrer dans une espèce d'immense bonbonne oui. À moins 160 degrés.
Il y avait
degrés.
Même des bars comme ça. J'ai vu un bar qui s'était monté.
Oui. Enfin, dans le bar, on était en anorak. Là, vous êtes en maillot, en fait.
Ah oui,
dans le,
non.
Le... Vous avez jamais testé ça?
Bah si, j'ai fait, j'ai fait du sauna en Norvège où on sortait là et on se plongeait dans une piscine d'eau glacée. Je sais pas si c'est ça.
On revient dans un instant, on parlera de tout ça avec Christian Reca. C'est notre rendez-vous Forme Santé dans une minute après la météo et les infos de 8h. À tout de suite.